les jardinières.
C'est un week-end plutôt humide qui nous attend, mais avant de sortir ses bottes pour se rendre au jardin, on s'installe confortablement place aux jardinières. Bonjour Steve.
Bonjour, bonjour.
Il s'est levé tôt pour partager son savoir et répondre à vos questions jardinage. C'est Julien Flunzer, coach de jardinage à Neuchâtel. Bonjour Julien.
Bonjour à tous et merci de me recevoir.
Ah ben merci à vous d'être avec nous ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour une heure au jardin.
7h, 8h. Les jardinières.
Avant de parler de grand ménage au potager, Julien, que va faire le jardinier en ce premier week-end du mois d'octobre dans son jardin ?
Alors, vous pouvez poursuivre vos récoltes de ce qu'il y a récolté, ce qui vous reste comme fruits, comme légumes. Et puis, vous pouvez commencer à semer, à envisager les plantations d'automne par rapport aux légumes. Et puis, par rapport aux fleurs aussi, les vivaces, on peut songer à les planter, les transplanter. Diviser les souches, je pense que c'est le moment assez idéal.
Qu'est-ce qu'on peut semer comme légumes ce week-end, par exemple ?
On peut songer à la mâche, aux poireaux gentiment, les carottes aussi. Et dans la famille des choux, il y a pas mal de possibilités aussi.
On note tout ça et on se prépare également à poutser. Hein. Ce matin, Julien, vous allez nous parler de grand nettoyage d'automne. Et puis, vous allez également répondre aux questions de nos auditrices, auditeurs.
Et des questions qu'on attend par téléphone, par exemple, au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez aussi l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et votre petit nom. Vous nous envoyez tout ça au 939 ou alors en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Avec la possibilité de joindre une photo.
On se retrouve dans un instant pour la suite.
7h, 8h, les jardinières.
Rien ne vaut un bon coup de poutre pour débuter le week-end et ce nettoyage, il se passera du côté du jardin. Quand on parle de grand nettoyage, on pense directement au printemps et pourtant, le jardin apprécie un grand nettoyage d'automne. Et en automne, ce sont souvent les feuilles mortes qui jonchent les sols et qui donnent beaucoup de travail. Julia Flunzer, vous êtes coach en jardinage. Dites-nous, les feuilles mortes, est-ce qu'on doit vraiment les balayer, les ratisser ? C'est un peu la question récurrente, hein, chaque automne. Je les laisse, je les enlève.
Je vais vous donner la réponse récurrente aussi, c'est oui, mais non. Ça dépend vraiment de ce que vous avez comme sol dessous. Si c'est une belle pelouse, le fait de laisser les feuilles va forcément laisser des taches, ça va forcément asphyxier un petit peu le gazon dessous, donc c'est pas une bonne idée de laisser vraiment sur la pelouse. Si c'est un terrain nu, une plate-bande, un massif, là c'est plus intéressant justement pour faire une espèce de paillis d'appoint pour conserver un petit peu l'humidité, la chaleur et de garder un peu la microfaune dessous.
Donc ça dépend vraiment où on les laisse. Puis une fois qu'on les a ramassés et ratissés toutes ces feuilles, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, mais le mieux justement, c'est d'en faire un paillage d'appoint pour les massifs de fleurs, de légumes, et puis au pied des arbres simplement pour protéger un petit peu. Et puis on peut laisser une partie sur le terrain si c'est pas un gazon forcément trop précieux, parce qu'il y a un petit peu ce mantra qui dit « ce qui est à la terre retourne à la terre ». Malheureusement, et c'est pas super riche en azote non plus. Donc c'est un peu à votre guise. Les composter, c'est un peu problématique parce que ça met très long à se décomposer. Ça peut aller jusqu'à presque 2 ans suivant ce que vous mettez dedans. Donc c'est embêtant. Entre amener la déchetterie ou faire un tas dans un coin discret pour que les enfants puissent jouer dedans.
Les enfants, voilà. Et est-ce que toutes les feuilles mortes sont bonnes pour notre compost ou pour ce paillage d'appoint? Ou alors est-ce que certaines espèces sont à proscrire?
Alors, à proscrire complètement, pas forcément, mais il y a deux, trois... Déjà, les feuillages coriaces, ils vont mettre plus long à se décomposer. Par exemple, le hêtre ou alors, le hêtre, c'est pas un feuillage coriace, mais il y a plus de tanins dedans. Et puis, le hêtre, c'est plus coriace, donc ça met plus long à se décomposer. Là, on peut, par exemple, les tondre ou les hacher pour accélérer le truc. Et sinon, il y a les feuilles de noyer particulièrement qui, elles sécrètent une substance qui s'appelle la juglone, je crois. Et puis ça inhibe un petit peu la germination des autres graines ou des autres plantes qu'il y a dessous. C'est pour ça que sous un noyer, il n'y a pas grand-chose qui pousse en général d'ailleurs.
Même si on paye un bon noyer.
Même si on paye un bon noyer, oui.
Julia, si on a un grand jardin, évidemment ça peut vouloir dire aussi beaucoup d'arbres et du coup beaucoup de feuilles à enlever. Comment on fait pour ne pas se décourager à les enlever ? Est-ce qu'on passe du râteau à la souffleuse ? Il y a des techniques comme ça ?
Alors si vous avez le luxe d'avoir une souffleuse, c'est l'outil qui va bien vous simplifier la vie, ça c'est clair. Et sinon, on peut y aller en plusieurs fois, mais beaucoup d'arbres vont faire beaucoup de feuilles, ça c'est...
Et Julien, si on n'a pas d'arbres, au contraire, par exemple, mais on aimerait faire ce paillage, ce mulch dont vous avez parlé de feuilles mortes, est-ce qu'on a le droit d'aller en forêt ou chercher son petit sac de feuilles mortes?
Intuitivement, j'ai envie de répondre oui, mais comme on est en Suisse, c'est le genre de question qui peut peut-être pas nous surprendre. Quoi. Mais non, je pense qu'on peut, mais le mieux, ce serait peut-être de regarder avec les gens de Steve qui ont trop d'arbres, justement, et puis il y a moyen de s'entendre, je pense.
Demander aux voisins.
Faire un marché des feuilles.
Je change de feuillage, ça peut être intéressant. On dirait des Pokémon, tiens. Merci Julien, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du grand nettoyage. Il y a encore du boulot.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Julien Flinzer, coach en jardinage, on parle de grand nettoyage d'automne. Alors, nous avons parlé des feuilles mortes. Passons au potager maintenant. La plupart des légumes sont en fin de vie. Je pense par exemple aux pieds de tomates, aux courgettes. Julien, qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes qui sont encore en terre? On les bazarde?
Alors, vous pouvez les bazarder, oui. Ou sinon, vous pouvez, pour limiter le grand nettoyage d'automne, pour en faire un moyen nettoyage d'automne, on va dire, on peut couper à ras les tomates et puis laisser les racines dans le sol. Comme ça, le long de l'hiver, ils vont se décomposer gentiment. Et puis, ça apporte quand même un petit peu quelque chose au sol. Et puis, ça permet à la microfaune de rester un petit peu justement dans le sol. Si on met le sol à nu, les insectes, les animaux vont aussi partir et ce sera un peu, ça va péjorer un petit peu pour le printemps. Quoi.
Et puis sinon, qu'est-ce qu'il faut faire des fruits et des légumes qui pourrissent tranquillement sur le sol?
Si on prend le cas de la tomate, c'est intéressant, elle va se ressemer naturellement, c'est son cycle naturel. Donc vous avez la chance de vous retrouver avec des tomates au printemps prochain, mais ça peut en faire beaucoup. Et puis ça peut aussi faire des plantons après à retransplanter ailleurs, mais... Si vous voulez la culture de tomates au même endroit où elle était, c'est très bien de laisser faire ça, de laisser pourrir et puis de regermer.
Et puis pour les pommes ou les coings, par exemple, on peut laisser? On aura des petits cognassiers, des petits pommiers?
Non, ça marche moins bien, malheureusement. Là, je pense que c'est mieux de ramasser parce que ça va pourrir simplement aussi. Donc c'est, les deux méthodes se valent. C'est juste si vous voulez un sol propre visuellement ou bien... qui apporte un petit peu quelque chose au sol. Donc, c'est deux visions.
Tout à l'heure, on a parlé des feuilles mortes qu'il fallait retirer sur sa jolie pelouse. Est-ce que justement, en parlant de gazon, de pelouse, c'est le moment de lui faire une dernière beauté avant l'arrivée de la neige, même si on est qu'en octobre?
Oui, je pense que ça s'y prête bien. On peut faire encore des fertilisations. Et puis, ce que je conseille avant les premières neiges, c'est de tondre le gazon, mais pas trop court, pour qu'il ne gèle pas forcément, peut-être 4 cm. Et ça, c'est intéressant. Et si vous voulez, encore avant de fertiliser, vous pouvez chauler le sol, si vraiment...
Chauler.
Chauler le sol, ouais. C'est apporter de la chaux, du calcaire sous une autre forme. Et puis ça favorise un peu la reprise au printemps. Ça aide un petit peu au démarrage.
Et côté végétaux, est-ce qu'il faut semer, planter des choses ou on préfère laisser la terre à nu?
Alors moi, je suis partisan de jamais laisser en fait, la terre à nu. Parce que si vous la laissez à nu, dès qu'il y aura 3 rayons de soleil, il y a des mauvaises herbes qui vont surgir et puis ainsi de suite. Au printemps, vous allez vous retrouver avec une masse de mauvaises herbes, c'est-à-dire vous allez aussi vous retrouver avec les grands nettoyages de printemps. Et puis toujours pour un petit peu la microfaune et du sol, les insectes, de garder quelque chose toujours. Aussi, le sol va se tasser durant l'hiver et puis ça va vous faire une terre plus compacte au printemps, donc encore plus de boulot. Quoi.
Alors qu'est-ce qu'on peut semer pour ne pas laisser cette terre à nu?
Alors, si on veut faire des légumes, c'est justement ces plantations d'automne ou d'hiver, ou bien on peut... Peut-être l'engrais vert, je ne sais pas si c'est un peu tôt ou... Mais on peut, par exemple, mettre les déchets, comme j'ai parlé tout à l'heure, les déchets des autres tailles qu'on a faites, quoi, que ce soit des légumes ou des arbres, en vérifiant toujours qu'ils ne soient pas malades, bien sûr.
C'est mieux. Et puis, on va parler un petit peu de l'outillage quand même. On va le ranger avant l'arrivée de l'hiver. Est-ce qu'il faut le nettoyer? Moi, j'ai carrément vu que certaines personnes conseillent de le désinfecter.
Oui, alors idéalement, ce serait pas mal. Parce qu'en arboriculture, surtout, on désinfecte presque entre chaque arbre. Parce que justement, pour ne pas transmettre des maladies ou des viroses d'un individu à un autre. Après, pour le privé, c'est toujours bien. Je pense que c'est un plus de le faire. Il faudrait le faire chaque fois en fait, qu'on touche une plante malade, mais ce n'est pas indispensable non plus.
Et puis, on a tous des réserves de gel hydroalcoolique quelque part.
Voilà, exactement.
Qu'en est-il des arrivées d'eau? Peut-être qu'on peut avoir des petits biotopes dans son jardin aussi, où il y a de l'eau qui circule. Ça peut être évidemment les robinets, ces choses-là. On n'y prête pas beaucoup attention, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi.
Oui, alors avant les gelées, il faudrait que le système soit fermé et qu'il n'y ait plus d'eau dans les tuyaux. À part si le tuyau il est enterré très profond, l'eau va geler avec la dilatation. Ça peut faire des dégâts aux tuyaux ou aux citernes en plastique ou des choses comme ça. Oui.
Donc les citernes qui se sont bien remplies ces derniers jours avec la pluie, il faudrait les vider avant l'hiver?
Oui, si c'est des citernes en plastique, oui, parce que quand l'eau gèle, la glace se dilate, ça peut faire casser aux citernes. Si elles sont enterrées, elles sont normalement hors gel, donc il n'y a pas de souci. Mais ces citernes en plastique dehors, surtout si elles sont en plein vent, s'il fait très froid, ben ça va geler et ça risque de briser votre citerne.
On pourrait les couvrir comme, comme par exemple des arbres un peu fragiles?
Oui, alors je pense qu'on peut essayer de couvrir avec différents textiles ou même des vieilles couvertures ou quelque chose, mais s'il fait super froid, si l'eau gèle, c'est toujours le même truc.
On peut mettre une bouillotte sur la bouillotte, quoi.
Voilà. Ça. Mettre un petit feu sous la citerne.
Merci beaucoup, Julien, pour tous ces conseils de grand nettoyage de printemps. On se retrouve pour la suite des jardinières dans quelques minutes et vous allez répondre aux questions des auditeurs. Steph, on va peut-être rapidement rappeler comment poser ces questions.
Vous pouvez soit nous envoyer un SMS au 939, il faut mettre jardin au début de votre message et puis aussi nous mettre une question dedans pour qu'on puisse y répondre. Vous pouvez également passer par le formulaire en ligne sur notre site internet, c'est sous l'onglet émission questions aux jardinières, où là vous pourrez même ajouter une photo. Et puis sinon il y a le téléphone, on se ferait un plaisir de vous accueillir, de parler de vive voix avec vous. Ça permet des fois de nuancer certaines réponses. 0 901 70 20 20.
7h, 8h, les jardinières.
Les journées raccourcissent, le brouillard est de retour en plaine et dans les vallées. Pas de doute, nous sommes en octobre. Même si le jour est à peine levé, nous parlons jardinage et nous sommes en compagnie de Julia Flunzer, coach de jardinage à Neuchâtel.
Vous avez également jusqu'à 8 heures pour poser des questions à notre spécialiste qui va répondre à toutes vos interrogations concernant le jardinage. Vous pouvez nous appeler maintenant au 0900 70 20 20, c'est 36 centimes la minute et vous pourrez poser votre question en direct à notre invité. Vous pouvez également remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières ou alors par SMS en tapant jardin au début de votre message. Vous envoyez tout ce joli petit paquet au 939.
Et qui dit automne dit noix, c'est la question que nous envoyait Paulette de Couvet. Bonjour, je ramasse beaucoup de noix ces jours, certaines sont encore dans leur brou ou leur bog, je ne sais pas. Du coup, mes mains sont toutes brunes noires, avez-vous une astuce de jardinier pour que mes mains redeviennent belles? Merci.
Eh bien, c'est une grande question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que le seul truc qui marche vraiment, c'est d'attendre que la peau se régénère. Donc, il faut laver les mains souvent. J'essayerai le jus de citron, le bicarbonate, des choses un petit peu comme ça. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment très...
Ou simplement porter des gants.
Ou simplement porter des gants, ouais.
Et justement, en parlant de noix, quand elles sont encore dans leur bog, est-ce qu'il faut les laver avant de les faire sécher? Qu'elles soient,
non,
il n'y a pas besoin.
Non, il n'y a pas besoin.
Merci, voilà, pour tous les amateurs de noix qui vont aller à la chasse aux noix ce week-end. Vous avez de quoi faire.
On a également Bruno de Courandelin qui nous dit « Bonjour, mes carottes ont comme éclaté en terre, comme si leur peau était trop serrée. De quoi ça peut venir ?»
Alors ça, c'est assez typique. C'est un accident physiologique, c'est vraiment le manque d'eau. Il y a une longue période de manque d'eau, peut-être une semaine, plusieurs jours. Curieusement, vu l'été qu'on a eu, j'ai une idée un peu sur le suspect. Mais c'est ça, ou bien la carotte, elle a rencontré un caillou ou un objet dans le sol qui l'a fait s'éclater. Quoi.
C'est ça qui arrive quand elle se fissure, en fait, les carottes.
Oui, c'est assez typique du manque d'eau. Ouais. Il fait ça. Ouais.
Est-ce qu'on peut quand même les manger?
Oui, absolument. Ouais.
Donc, aucun souci.
Aucun souci.
Donc, pour s'ils plantent maintenant, vous avez parlé des carottes d'automne tout à l'heure. On les arrose aussi tous les jours, tous les deux jours, tout le temps, souvent
oui, mais jusqu'à...
Jusqu'au gel.
jusqu'au gel, non. Jusqu'à la gentiment la récolte, gentiment, quoi. L'idéal avec la culture de carottes, si on revient là-dessus, ce serait de la couvrir quand même avec un textile non tissé, par exemple le P17, qui est connu justement dans l'agriculture, qui empêche un peu la gelée de s'installer, mais qui permet quand même de respirer à la plante et de s'évaporer. Donc non, il faut arroser presque tout du long.
Quoi. Arroser les carottes. Steve, on va passer un petit peu de musique, se retrouver juste après. Peut-être le temps pour nos auditeurs d'attraper leur téléphone et nous appeler.
0901 70 20 20.
7h, 8h, Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Tous les samedis, nous sommes là avec Steve, entre 7h et 8h pour répondre à vos questions jardinage. Enfin, ce n'est pas Steve et moi, c'est notre spécialiste qui répond à vos questions. Ce matin, c'est Julien Flunzer qui répond à vos questions. Et puis Steve, on a reçu une question justement.
Exactement, via le formulaire où on a même une photo avec, où on voit des feuilles assez larges qui cachent une sorte de tige qui ressemble à du bambou. Et puis on a cette description qui nous dit « Bonjour, j'ai cette plante qui pousse de manière très agressive en rhizome dans mon jardin. Il me semble que c'est une renouée du Japon et que c'est une vraie plaie. Vos solutions ?» J'ai déjà sorti un plan entier, les racines sont très profondes. Il s'agit de Marie-Claire de Valbirse.
Eh ben oui, effectivement, on voit que c'est une renouée du Japon parce qu'il y a les grandes feuilles larges, comme vous venez de le dire, et puis il y a la tige qui devient un petit peu pourpre vers le haut. Donc, c'est bien ça. Alors, la procédure, là, c'est bonne chance. la renouée du Japon, c'est une plante invasive qui, justement, a un système rhizomatique extrêmement actif et puis qui sécrète aussi un petit peu des substances qui vont inhiber le développement d'autres plantes. Donc, à terme, c'est quelque chose qui se développe tout le temps. Et puis, on peut l'arracher, on peut la couper, on peut la traiter, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de moyen définitif de s'en débarrasser, je vois que le napalm.
Et on peut les déterrer et puis y aller aussi à l'huile de coude.
Alors il faut surtout y aller à l'huile de coude et puis constamment, dès qu'il y a un petit peu arraché, dans la logique que moins il y en a. Mais ouais.
Et du coup, ces plantes tellement invasives, si on les enlève, on évite de les mettre sur son compost.
Absolument, on est censé les brûler ou les faire brûler, c'est ce qu'ils vont faire à la déchetterie normalement.
Donc on ne les met même pas au compost qu'on ramasse le long des routes.
Non, sac poubelle.
Sac poubelle.
Et puis incinération.
Eh bien, bonne chance, Marie-Claire de Valbirse, avec vos renouées du Japon, qui est quand même une belle plante à la base. On va enchaîner avec du basilic, Julien. Notre basilic a fait de jolies toutes petites fleurs. Est-ce que ce sont les graines? Si oui, comment les récolter, les conserver pour ensuite et les ressemer l'année prochaine?
Alors oui, il s'agit bien des graines. Et puis, comment les récolter? Alors, il faut attendre que la tige soit vraiment sèche. Ensuite, on peut la couper. Ça, c'est vraiment important que ce soit sec. Et puis, c'est bien de faire ça en-dessus d'une feuille de papier, par exemple. Et puis, d'effriter les restes d'inflorescence et puis les petites graines. Et puis ensuite, on les trie sur le papier. On les conserve dans un petit sachet au sec. Et puis, on peut ressemer l'année prochaine.
On a une question qui nous parle également des plantes vertes à l'intérieur. J'ai une plante verte dans mon salon. Les feuilles sont pleines de poussière. Quelle est la meilleure méthode pour enlever cette poussière?
Alors, à l'huile de coude aussi, avec une pâte humide, il faut nettoyer les feuilles. C'est super important justement pour les plantes d'intérieur. Les gens ne le font pas assez souvent parce que c'est ça qui inhibe un petit peu la photosynthèse. Une fois que la feuille elle est couverte de poussière, elle va moins capter la lumière. Donc c'est aussi ça qui est des fois une cause de ralentissement du développement de la plante.
Alors ça marche bien avec les plantes qui ont des feuilles assez grasses, mais les petites feuilles, je pense à des ficus ou des choses comme ça, c'est compliqué, non?
Oui, ben moi je le fais sur mes ficus par exemple.
Et la patience.
Si vraiment vous avez de la place, vous avez un tuyau d'arrosage, vous pouvez aussi coucher votre ficus et puis le doucher.
Le cactus aussi?
Non, alors là, moins.
Et puis, il y avait cette, on peut appeler ça une légende urbaine, qui disait qu'il faut laver les plantes avec de la bière pour qu'elles soient belles, c'est vrai?
Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être un truc de jurassien ou de... les Valaisans diraient la bricotine, peut-être, je ne sais pas. Non, le mieux, c'est quand même l'eau distillée, toujours, parce que notre eau, elle est assez calcaire. Donc, si vous nettoyez avec l'eau, ça va faire des petites taches de calcaire. Le mieux, c'est l'eau de pluie. Et puis, si vous avez de l'eau distillée qui traîne au garage...
Merci Julien pour nous parler du nettoyage de ces plantes vertes. J'ai vu une vidéo qui disait que si le sol manquait de fer, il suffisait de mettre des clous dans notre sol. Mais la personne a un doute.
Oui, c'est une vraie question.
Oui. Vous savez, avec maintenant tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux, je pense que toute question est une vraie question.
Moi je ferais pas comme ça, mais si on met du fer dans le sol, techniquement on peut dire qu'il y a du fer dans le sol. Après, est-ce qu'il est absorbable par les plantes? Je pense pas du tout, en fait ça sert à rien.
Mais un clou rouillé par exemple, il y a quand même une perte de matière qui s'effrite, alors lentement évidemment.
Ouais, mais l'oxydation du clou va se faire tellement plus vite que sa dégradation. Ouais. Que...
Et puis si vraiment alors notre sol manquerait de fer, à la place d'y mettre des clous, qu'est-ce que vous proposez comme solution, Julien ?
Ben, y a des fumures justement qui ont du fer sous sa forme minérale, en guillemets. Des amendements, des terreaux qui ont déjà ce genre d'ajout dedans. Des produits, mais il n'y a pas de... On ne peut pas amener du fer brut dans son sommet du fer et puis espérer que le sol le mangera comme ça.
On a encore une question qui nous dit « J'ai entendu qu'il était temps de semer les fraisiers. Si je les mets dans un bac, est-ce que je les laisse dehors pour l'hiver ?»
Alors ouais, c'est pas mal de les semer, mais moi je conseille encore mieux maintenant, c'est de prendre les stolons qui normalement sont sortis de vos plants de fraisiers et puis de les replanter directement. Ça gagne un petit peu de temps, puis on évite d'acheter des graines de fraisiers. Après en bac, c'est bien de pailler aussi un petit peu dessus justement, et puis que le bac soit assez profond, pas faire des bacs de 15 cm, parce que alors là si ça gèle, tout va geler, il faut quand même qu'il y ait un petit volume, un bon volume de terre. Quoi.
Les bacs de balcon, ça on peut oublier quoi.
Ouais, il y a trop peu de volume, là, s'il fait vraiment froid, tout va geler quoi.
Et puis justement, vous avez dit pailler, est-ce qu'on peut justement reprendre nos feuilles mortes du grand nettoyage pour pailler ces fameux fraisiers ?
Absolument.
Eh bien voilà, la boucle est bouclée. Merci Julien, on va se retrouver dans un instant pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Presque fini du coup. Alors si vous avez une question, c'est maintenant ou jamais au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Vous pourrez même y glisser une photo ou alors par SMS vous tapez jardin, un espace, votre question, votre nom et vous nous envoyez tout ça au 939. On va parler salade, Steve.
Exactement. Julia Frunzer, notre invitée, coach en jardinage à Neuchâtel. Est-ce le bon moment pour semer la doucette ? Si oui, comment m'y prendre ? Ou la mâche, hein, il y a plusieurs noms.
Alors oui, c'est le bon moment. En général, c'est de août jusqu'en novembre. Jusqu'à mi-novembre, on devrait pouvoir semer ça. Alors, c'est bien parce que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de faire un travail de sol vraiment très, très précis parce qu'elle n'a pas besoin d'un sol forcément très... très, très régulier, mais on fait le mieux, c'est des sillons, c'est de faire des petits sillons de peut-être 2-3 cm de profond qu'on peut espacer de 30-40 cm. Et puis là, on sème en ligne, justement, à la main. Et puis ensuite, ben, on recouvre et on arrose. Et puis, voilà, envisager peut-être la couverture textile, peut-être un P17 ou quelque chose comme ça. C'est pas mal pour l'hiver.
Et quand c'est qu'on pourra récolter cette mâche ?
Écoutez, comme ça, je sais pas.
Quand elle est prête, quoi.
Ouais, voilà, j'ai envie de vous répondre ça, parce que je n'ai pas mon calendrier sous les yeux.
Quand elle sort et que vous trouvez que les feuilles sont assez grandes, vous pourrez la déguster. On va parler pommier. Il y a une personne qui aimerait un pommier. Est-ce le bon moment pour aller chercher un pommier et le mettre dans son verger ?
Oui, c'est tout à fait le bon moment, qu'il soit, que vous l'achetez en pot ou à racines nues. On peut planter depuis l'automne jusqu'à l'hiver. C'est bien l'automne, comme ça il a le temps de raciner un petit peu avant l'hiver. Donc, creuser un trou suffisamment profond, en tout cas 15 cm en dessous du collet encore, qui est le début de la partie aérienne de la plante. Habiller un petit peu les racines, c'est-à-dire un peu reprendre les petites coupes pour habiller et puis limiter justement les cassures et tout ça. Et de le planter simplement, de mettre de la terre, de mélanger si possible. Moi, j'invite à mettre de la poudre de corne, qui apporte justement pas mal d'azote. Ça va l'aider pour le développement de l'arbre. Et puis de faire une petite cunette autour, une petite cuvette autour de l'arbre. Et de pailler également avec les feuilles mortes. On a trouvé encore un autre usage. Et puis et après, il faut compter en tout cas la troisième ou la cinquième feuille, donc la quatre ou cinquième année, avant qu'il y ait les premiers fruits.
Donc de la patience aussi. Ce matin, nous avons parlé de grand nettoyage d'automne, histoire de préparer au mieux son potager à passer l'hiver. Vous pourrez retrouver les conseils de Julien en podcast, ça sera en cours de matinée sur notre site. Julien, avant de vous laisser partir, dites-nous que peuvent faire les amateurs de jardin ce week-end au potager. Voilà.
Ils peuvent s'occuper un petit peu de l'entretien de tout ce qui est coupe, donc le gazon, les haies, toujours un petit peu ce genre de choses. Commencer à aiguiser, lubrifier et préparer ses sécateurs et ses outils de coupe pour ceux qui vont tailler. Et puis profiter encore maintenant, c'est pas mal, justement pour diviser toutes les souches, toutes les touffes de vivaces, etc., pour les multiplier, les replanter. beaucoup les vivaces, justement, qu'elles aient le temps de refaire des racines avant l'hiver pour bien démarrer au printemps.
Merci Julien. On rappelle que vous êtes coach de jardinage à Neuchâtel. On vous souhaite un bon week-end et à très bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et bon week-end à vous également.
Et samedi prochain, nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves. Et vous pouvez nous envoyer vos questions jardinage en tout temps, bien sûr, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Vous nous l'envoyez au 939 et puis il reste, Steve, à vous souhaiter un bon week-end.
Eh bien, allez-y.
Bah bon week-end, Steve.
Merci, Mylène. Bon week-end à toutes et à tous.
Et à samedi prochain pour un nouvel épisode des Jardinières.
7h, 8h, les Jardinières.